Participants recherchés pour une étude sur l'usage des technologies d'information dans la planification des activités récréo-touristiques des familles ayant un enfant en situation de handicap. J'en parle avec Mohamed Reda Komsi, professeur-chercheur au département d'études urbaines et touristiques aux écoles ou à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour, M. Komsi.
Bonjour, Mme Denis.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que ce sont les écoles ou une école des sciences?
Non, c'est une école des sciences.
OK, parfait. J'avais un S sur mon communiqué. Alors, est-ce que le loisir pour les personnes en situation de handicap est un domaine de recherche populaire, courant dans les études sur le tourisme?
Ben, je vous dirais oui et non, dans le sens où oui, il y a une historique, il y a des gens qui ont commencé à s'intéresser là-dessus depuis, je vous dirais, quand même une bonne quarantaine, cinquantaine d'années. Sauf que quand on regarde le flot des études qui sont produites en tourisme, ça reste quand même très, 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 très faible en termes de volume. Mm-hmm. Il y a peut-être des gens qui se sont intéressés à cette question, mais qui sont plus, je vous dirais, dans les sciences médicales, donc des gens qui sont plus en santé mentale, en physiologie, en kinésiologie aussi. Donc, c'est des gens qui se sont intéressés à l'activité donc récréo-touristique, mais surtout un peu, c'est bien plus pour la santé, donc soit vraiment des personnes en situation de handicap adultes ou des enfants.
En ce qui vous concerne, est-ce que c'est votre première recherche en lien avec les personnes en situation de handicap?
Ben, c'est pas la première, c'est plutôt, je vous dirais, la plus grande. Parce que cette fois-ci, on a obtenu donc le soutien donc du Conseil de recherche sciences humaines du Canada pour financer cette recherche. Et l'objectif, nous, on a voulu se concentrer sur justement donc les familles qui ont un enfant en situation de handicap, parce que c'est là où on estimait qu'il y avait très 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 peu de recherches. Et je tiens peut-être à le préciser. On a essayé un peu d'élargir la notion au-delà un peu du loisir, parce qu'on voulait le loisir un peu de façon scientifique, c'est considérer un peu à faire une activité qui, je dirais, à proximité de la maison ou dans un environnement qu'on connaît. Alors que lorsqu'on l'énergie à une notion beaucoup plus touristique, ça veut dire qu'on va voyager à l'extérieur, mettons donc de notre propre ville, notre propre province ou carrément du pays.
Qu'est-ce que vous cherchez à savoir exactement?
Ben, ce qu'on cherche à savoir, ce qu'on a constaté un peu à travers les études, c'est que ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, lorsque une personne en situation de handicap fait donc une activité touristique ou récréo-touristique, ben, ça lui fait du bien, donc sur le plan d'abord parfois moteur, même aussi sur le plan donc mental. Mm-hmm. Et ça, je pense qu'il y a quand même, c'est assez démontré, on ne peut pas revenir là-dessus. Par contre, ce qu'on a vu un peu dans la plupart des études, mais aussi dans des consultations que nous avons faites, c'est que les gens, surtout les familles qui ont un enfant sur handicap, ben, finalement, ils en font moins. Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est soit pour des raisons donc économiques, parce que ça coûte un peu plus cher. Puis généralement, vous le savez probablement, donc quand on a un enfant ou vraiment quelqu'un donc de la famille, il y a quelqu'un qui s'en occupe, puis finalement, généralement, les revenus vont diminuer. Donc finalement, on ne peut plus se permettre des activités qu'on faisait avant. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de comprendre un peu comment donc les familles ayant un enfant sur le handicap font d'abord, est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils ne le font pas, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi l'impact sur le reste des membres de la famille. Parce que généralement, ce qu'on a constaté, c'est que les familles qui ont peut-être un enfant, mais qui ont deux, trois autres enfants qui ne sont pas donc en situation de handicap, mm-hmm. ben, finalement, la famille doit s'ajuster vraiment aux besoins de l'enfant. Puis parfois, soit on oublie un peu donc les besoins de la fratrie, et aussi, vraiment, parfois même, les parents s'oublient un peu. Donc, ouais. Du coup, c'est de voir comment vraiment on peut trouver des activités pour tout le monde, y compris donc l'enfant, mais sans oublier aussi la fratrie et les parents.
Qu'ils fassent le bonheur de tout le monde.
Tout à fait.
Et quel est le profil des familles que vous recherchez pour l'étude?
Ben, on recherche des familles un peu partout au Québec qui ont l'essentiel, c'est que les familles aient vraiment un enfant sur le centre d'handicap. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande vraiment donc de répondre à un questionnaire qui permet de plus ou moins de voir un peu le profil donc du participant de la famille. Est-ce que c'est, enfin, pas toute la famille, mais surtout la personne. Est-ce que c'est la maman ou c'est le papa qui planifie un peu l'activité pour voir est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà habitué à faire de la recherche sur Internet, parce que généralement, c'est comme ça qu'on trouve un peu l'information. Et par la suite, on leur propose une petite simulation en leur disant, ben, vous allez voyager, mettons, à Paris pour une semaine. Dites-nous comment vous allez vous y prendre. Donc, nous, on fait juste observer comment ils se rendent. Est-ce qu'ils vont aller à travers un moteur de recherche? C'est quoi les mots-clés qu'ils vont chercher, etc. Mm-hmm. Et par la suite, on leur pose des questions. Ben, pourquoi vous avez, j'ai un exemple qui me vient en tête quand on a commencé à faire l'étude. Il y a un parent donc qui a un enfant donc greffé de cœur. Puis là, lui, première chose lorsqu'il va vérifier, lorsqu'il va aller vraiment dans une destination, il va regarder c'est quoi l'hôpital le plus proche vraiment de l'hôtel. Il me dit si moi j'ai besoin de ou cas où il y a un problème, je peux au moins savoir qu'il y a un hôpital qui est spécialisé. Bon, c'est ce type un peu d'information qu'on va
Oui.
essayer donc de comprendre pourquoi on procède de cette façon.
Alors, si il y a des familles intéressées, ça prend environ combien de temps à leur répondre à ce questionnaire, à participer à une simulation et aussi à répondre à quelques questions? C'est combien de
Ah, ben,
minutes?
maximum, ça prend, je dirais, le questionnaire prend peut-être une 10-15 minutes, la simulation peut-être une vingtaine, puis l'entrevue une vingtaine de minutes. Donc, gros maximum, ça prend 1 heure pour faire le tour de la question.
Et de quelle façon vous allez faire les consultations, étant donné qu'on est en pandémie?
Alors, tout à fait. Donc, au début, avant pandémie, donc, on faisait ça vraiment de façon en présentiel, comme c'est un peu le mot à la mode. Mais actuellement, ce qu'on fait, c'est simple. Il y a en même temps la beauté de la chose, c'est qu'avec le numérique, c'est très simple. C'est que le questionnaire, tout simplement, donc il y a un lien qu'on envoie aux personnes qui peuvent remplir ça sur Internet. Puis, pour la simulation, donc on leur envoie un lien soit avec Zoom, soit avec Teams. Puis, on voit tout simplement ce que les gens on regarde un peu leur écran. Puis, on voit ce que les gens sont en train de faire pour en termes de recherche. Puis, l'entrevue se fait soit par téléphone, soit en continuant tout simplement par vidéoconférence aussi.
Et il y a aussi l'intelligence artificielle là, qui est au cœur de votre recherche.
Tout à fait. Alors, l'idée, la deuxième partie donc de la recherche, une fois qu'on a fait le tour de la première question, ce qu'on s'est dit, c'est aujourd'hui, on se plaint beaucoup que l'intelligence artificielle ne permet pas d'avoir un peu une vie privée sur le web. Mais nous, on prend un peu, je dirais, le paradigme à l'inverse, de dire, OK, ben, si l'intelligence artificielle est capable donc d'analyser beaucoup de données, pourquoi ne pas finalement, lorsque la personne, comme je dis, le papa ou la maman qui va aller vraiment faire une recherche pour un voyage en Gaspésie pour toute la famille, mais qu'elle a un enfant donc, qui a une chaise roulante ou un autre handicap. Ben, l'idée, lorsque la personne fait la recherche sur le web, les informations qu'il va avoir, c'est vraiment des informations qui connaissent déjà le profil et l'handicap donc, de la personne. Donc, si c'est, je ne vais pas avoir dans les résultats de recherche un hôtel qui finalement n'offre pas donc, vraiment de facilités en termes d'accessibilité. Et donc, du coup, nous, on dit, on va intégrer, on va voir si l'intelligence artificielle pourrait faciliter le travail pour que lorsqu'on fait une recherche sur le web, les résultats qu'on va avoir, ça permet, c'est des résultats qui correspondent à nos besoins, mais pas uniquement le besoin de l'enfant, mais aussi le besoin de toute la famille. Et même aussi, on pousse la logique loin parce que vous savez aujourd'hui que chaque handicap, même il y a vraiment des catégories d'handicap, mais chaque personne est vraiment très particulière. Si on prend une personne autiste, par exemple, ben, Jacques, c'est pas la même chose que Julien ou une autre personne. Chacun a sa propre bulle, chacun sa propre particularité. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que dans l'intelligence artificielle, on peut vraiment intégrer toutes ces informations pour que la recherche et surtout les résultats de recherche soient plus faciles pour les familles. Et du coup, ils vont pouvoir faire plus d'activités au lieu d'en faire moins.
Et vous commencez la recherche quand?
Ben, on a déjà commencé. Donc, on a déjà commencé, ça fait déjà quelques mois. Et donc là, on est je dirais, dans une deuxième étape, justement. Donc, les personnes qui peuvent s'intéresser peuvent me contacter. Je ne sais pas si on peut laisser
Ben oui,
donc,
allez-y.
les coordonnées. Donc, enfin, il y a une adresse courriel, c'est comme si.mohamed-duba-reda@commercialucain.ca. Donc, on
Peut-être la
pourrait, j'imagine,
répéter.
laisser. Alors, c'est comme si, à la blague, c'est toujours c'est comme si, comme ça, mais pour se rappeler, mais généralement, ça s'écrit KHOMSI. Point Mohamed avec un seul M, tiré du bas, Reda, R comme Robert, E comme Evian, D comme David, A comme Alpha, à commercialucam.ca. Ou bien les gens, ils peuvent juste écrire comme si Mohamed Reda facilement sur Google UCAM, ils vont trouver mes coordonnées facilement sur le web. Et ils peuvent me contacter. Donc, moi, par la suite, donc, on va les. Il y a un protocole, je tiens à le souligner, comme c'est une recherche qui est financée par le CRSS, donc c'est une établissement fédérale. Donc, il y a vraiment des règles d'éthique assez strictes. Donc, là, on doit vraiment donc envoyer un formulaire de consentement. Puis, tout le processus se déroule de façon anonyme. C'est-à-dire que le nom des personnes n'est jamais vraiment, ne figure nullement. C'est vraiment pour respecter un peu la vie privée des gens.
Et est-ce que les résultats de cette recherche vont être rendus publics à
Tout à fait.
tous?
Alors,
Ben, public à
oui, tout à
tous,
fait.
mais oui.
Ben, oui, ben, nous, un peu dans l'objectif, c'est vraiment, on veut, il y a comme trois façons de communiquer les résultats. ben, il y a un peu, pour gérer la communauté de chercheurs, il y a vraiment d'avoir des articles qui sont cités, mais toutes les personnes qui vont avoir participé, ils vont recevoir les résultats de la recherche à travers un livre blanc qu'on souhaite mettre en place, qu'on va vouloir distribuer non pas seulement aux parents, mais surtout aussi à des personnes qui sont plus impliquées dans le domaine, mettons que dans les CRDI, dans les écoles, dans le domaine médical, les assistants sociaux aussi. Et pour vulgariser davantage, on prévoit vraiment faire une sorte de balado, donc pour qu'ils racontent un peu comment les gens, c'est quoi les difficultés pour chercher une activité touristique pour ce type de personnes, comment on procède, c'est quoi un peu les astuces. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de la vulgarisation à grande échelle pour que tout le monde soit conscient vraiment du travail qu'on est en train de faire.
Bien, il faudra vous réinviter pour que vous nous parliez du livre blanc, de la sortie du livre blanc, de ce balado aussi. En projet. Mohamed Reda Komsi, professeur-chercheur au département d'études urbaines et touristiques à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Merci beaucoup pour cette entrevue, puis bonne chance avec votre recherche.
Merci pour l'invitation. Au revoir.